Chacolliers et dont les premiers individus se seraient échappés d'une cage de transport à Orly durant les années 70. Ouais. Résultat, on les retrouve aujourd'hui dans de nombreuses villes de France, mais aussi en Belgique, en Angleterre ou en Espagne.
Ah bah elle se reproduit bien. Alors,
elle s'est épanouie, elle est vraiment très heureuse chez nous. En Île-de-France, leur nombre est estimé à 8000 il y a 3 ans, elle serait près de 15000 aujourd'hui.
C'est vrai qu'il nous est familier.
C'est très agréable, c'est sympa. Sont des oiseaux verts, qui donnent de la couleur au ciel en brune.
Avec un petit bec rouge, non ?
Légèrement rouge.
Merci Alain.
Bonsoir.
On refait la planète sur RTL.
Il est 19h.
RTL dimanche soir
avec Vincent Parisot.
Et le journal de 19h, c'est avec vous Gaël Jordana, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et à la une circulation bien compliquée en Île-de-France ce soir.
Et oui, la 13 est fermée partiellement à cause de fissures sur la chaussée. Il y a aussi le match PSG-OL et surtout les retours de vacances. On vous donnera les points de blocage. À Blois, une jeune femme de 27 ans est décédée dans une fête foraine. Elle a été éjectée d'un manège. Dans le reste de l'actualité, les fumeurs français se ruent à la frontière avec l'Espagne. Les bureaux de tabac se multiplient après un changement de législation. Les cigarettes sont 2 fois moins chères. Du foot, la Ligue 1 et la très mauvaise opération de Brest face à Monaco, Philippe Audouin.
Oui, ou la bonne opération pour Monaco, c'est comme on veut. 2 à 0 pour l'AS Monaco. But marqué par Zakaria à la 40e et Minamino à la 48e. Un match qui se termine dans la confusion avec 2 cartons rouges coup sur coup pour les Monégasques dans le temps additionnel. Singo à l'instant, alors que tout à l'heure c'était Akliouche qui avait été expulsé. Victoire donc de Monaco, très probable désormais puisqu'on est dans le temps additionnel. 2 à 0 à Brest, Monaco qui va dépasser Brest au classement.
Merci Philippe. Toulouse OM, ça débute dans quelques minutes. Le coup d'envoi a été reporté à 19h15 en raison de heurts entre supporters. Les résultats des autres rencontres en fin de journal.
Et juste après le journal de Gaël Jordana, eh bien ce sera à vous de jouer Isabelle Langer dans On refait le sport. Avec quel menu?
Nous reviendrons sur la belle victoire du 15 de France féminin 40-0 contre le Pays Galles. Nous serons en ligne avec l'une des joueuses et puis nous recevrons un invité spécial, Jim Ilgram, qui est le chef de groupe de la BRI. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que lui et ses hommes sont aussi des sportifs de haut niveau, si ce n'est plus.
À tout à l'heure.
RTL dimanche soir.
Et donc prudence et patience sur la route ce soir en Île-de-France. Ça bouchonne pas mal aux abords de Paris.
Bison futé avait vu orange avec la fin des vacances pour la zone C. Il y a aussi le match PSG-Lyon au Parc des Princes à 21h. Et en plus, l'autoroute A13 est toujours fermée dans le secteur de Saint-Cloud à cause d'importantes fissures sur la chaussée. Bonsoir Valentin Boissé.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'A86 près de Vaucresson et il y a de gros points de blocage ce soir.
Absolument, quelques points à commencer donc par la N118, je vous le disais tout à l'heure, de laquelle je me suis extirpé. Il s'agit d'un itinéraire de déviation de l'A13, mais ce soir les temps de parcours se rallongent d'une vingtaine de minutes en direction de Paris, car en plus de l'affluence, il y a eu un accident à la hauteur de Vélizy. Puis les difficultés arrivent lorsqu'on se rapproche ensuite de Paris, notamment à hauteur du pont de Saint-Cloud. C'est ici que l'autoroute est fermée, les voitures se déversent dans le réseau secondaire de la ville de Saint-Cloud, ce qui pose des problème. Enfin, pour la prochaine heure, je vous conseille vivement d'éviter la porte de Saint-Cloud sur le périphérique, parce qu'en plus de la fermeture de la 13, il y a un match ce soir au Parc des Princes, PSG-OL. C'était l'une des inquiétudes que l'on avait. Et bien, ça y est, le public commence à arriver, ce qui crée de l'engorgement en plus des retours de vacances.
Merci beaucoup, Valentin Boissé. Notez qu'une manifestation s'est tenue à Toulouse contre le chantier de l'A69. Entre 1500 et 5000 militants d'associations écologistes, notamment, protestent contre cette route qui doit relier Castres à la Ville Rose. Arrêtons les dégâts, vive le bus, le train, le vélo, pouvait-on lire sur certaines pancartes.
À Blois, une jeune femme de 27 ans a trouvé la mort dans un accident de manège.
Oui, cela s'est passé la nuit dernière dans une fête foraine installée dans le parc des expositions de cette ville du Loir-et-Cher. Bonsoir Joséphine Tazdaït.
Bonsoir.
Les faits se sont déroulés peu après 23h.
Oui, la jeune femme aurait été éjectée de la nacelle où elle se trouvait après que la barrière de sécurité se soit subitement ouverte. La victime, gravement gravement blessée a d'abord été prise en charge par le SAMU avant de décéder quelques heures plus tard à l'hôpital. Un accident incompréhensible pour Nicolas Lemay, président de la Fédération des Forains de France.
Ce sont des manèges normalement de haute technologie qui verrouillent et qui empêchent le fonctionnement du manège en cas d'anomalie. Ce sont des contrôles qui sont obligatoires annuellement, gérés par des organismes agréés par le ministère de l'Intérieur. Il y a des contrôles visuels et journaliers par les exploitants qui permettent le bon fonctionnement du manège.
Depuis l'incident, le propriétaire du manège a été placé en garde à vue. La famille de la victime a porté plainte. Et au lendemain du drame, la fête foraine est définitivement fermée. Elle devait s'achever ce soir. Les forains sur place ont décidé de ne pas ouvrir leur manège au public par respect pour la victime et ses proches.
Merci Joséphine Tazdaït. Au Proche-Orient, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, promet d'accroître la pression militaire, je cite, sur le Hamas dans les prochains jours. Israël a continué de bombarder la bande de Gaza en ce dimanche, notamment la ville de Rafah. Deux jeunes Palestiniens ont été tués par Tsahal en Cisjordanie. L'armée israélienne indique qu'il voulait s'en prendre à des soldats. Et puis la marine ukrainienne affirme avoir touché un navire russe en mer Noire, dans la péninsule de Crimée, annexée par Moscou. La nature des dommages est en cours de vérification, précise le ministère de la défense ukrainienne.
Une courte pause, vous restez avec nous dans un instant. On sera en Espagne, mais juste de l'autre côté de la frontière française, parce que là-bas, les bureaux de tabac poussent comme des champignons. À tout de suite.
RTL dimanche soir.
Et maintenant, parlons horlogerie française avec MGH, Manufacture Générale Horlogère.
Bonjour Sandrine Lafitte. Alors on est ici au service après-vente de MGH. Vous êtes vous-même horlogère et vous vous occupez particulièrement des montres anciennes. Alors est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles les clients vous envoient des montres qui ont parfois 30 ans, 40, voire 50 ans ?
Alors pour le client, c'est une montre qu'il a certainement reçue lors d'un anniversaire ou autre. C'est un objet familial qui a été remis par les grands-parents ou les parents parce qu'à l'époque, c'est un objet de grande valeur. Donc il la rapporte pour faire une restauration du mécanisme afin qu'il puisse en profiter encore longtemps.
Et alors vous réparez toutes les marques de montres et lorsqu'il s'agit d'une montre LIP, eh bien vous la restaurez avec des pièces d'origine. Donc si je retrouve la montre LIP de mon grand-père et qu'elle est en panne, eh bien si je vous la confie, vous allez me la rendre avec de vraies pièces d'origine.
Tout à fait. Soit vous nous la portez directement à la boutique, sinon vous pouvez nous l'envoyer via le site du groupe mgh.com.
Merci Sandrine Lafitte, à bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Merci et à la semaine prochaine pour parler horlogerie française avec MGH. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur www.groupemgh.com.
Oh Chantal, magnifique ton pool house. Mais où est donc la piscine ?
Eh bien figure-toi que mon pool house Akena est multifonction.
C'est vrai ?
Parfaitement, cuisine en été, local de rangement en hiver, espace de jeu pour les petits-enfants et même salle de sport. Ça t'embauche un coin, non ?
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Ce soir, dès 21h. Sur M6, découvrez la série documentaire passionnante Au cœur du collège, un an à Jean Villard. Sur W9, toujours aussi drôle, retrouvez l'irrésistible bande de copains dans La vérité si je mens. Sur Sister, l'aventure à travers le temps continue dans Vert Émeraude, le troisième opus de la saga culte. Bonne soirée sur les chaînes du groupe M6.
RTL dimanche soir
avec Vincent Parisot.
Et donc Gaël Jordana pour ce journal. Gaël, on va à la frontière espagnole. Côté espagnol, où les débits de tabac attirent de plus en plus les fumeurs français.
Ces magasins profitent du changement de la législation. Jusqu'à fin mars dernier, les Français ne pouvaient ramener d'Espagne qu'une seule cartouche de cigarette. Cette limite a été supprimée. Alors forcément, pour les fumeurs, c'est une aubaine. Côté espagnol, la cartouche de cigarette est deux fois moins chère qu'en France. Et les bureaux de tabac pullulent. Valentin Larquier.
À une dizaine de kilomètres de la frontière, la Jonquera, commune catalane de 3000 habitants, n'est pas réputée pour son patrimoine ou la beauté de ses rues. Par contre, la cigarette y est reine. José, un habitant de Perpignan, en achète ici depuis 15 ans et il voit les bureaux de tabac fleurir.
Il y en a déjà au moins une dizaine ici, 10 ou 15 ans. Ouais. Facile, ah oui, facilement, oui. En comptant tous les supermarchés qui font les ventes de tabac.
Et les prix sont imbattables.
3 cartouches, 159 euros.
Et en France, vous savez combien ça vous aurait coûté ?
Le double.
Depuis le début de l'année, le changement de législation, plus de limites de cartouches. 7 débits de tabac ont donc ouvert à la Jonquera et 3 au Pertus à quelques kilomètres de là. Biden est gérant d'un bar tabac.
Il y a beaucoup des bureaux de tabac cigarettes parce qu'ils marchent. Ils marchent beaucoup.
Quand on veut investir à la Jonquera, on investit dans un bureau de tabac.
Exactement, exactement. Bureau de tabac. tabac et supermarché et alcool. Et cette année, il y a beaucoup de clients qui viennent acheter. Nous, le client, 80%, 90%, ce que les Français.
Le changement de législation n'a pas fait exploser le chiffre d'affaires des buralistes qui se répartissent la clientèle française.
Valentin Larqui à la Jonquera, à la frontière franco-espagnole. Notez que le gouvernement français précise que ces cigarettes doivent être achetées pour un usage personnel. En cas de présomption de commerce illégal, les douaniers pourront sanctionner les acheteurs et saisir la marchandise.
Vous n'oubliez surtout pas que demain matin, RTL sera en direct de Marseille, dès 7h, RTL Matin, avec Amandine Bégaud, Philippe Cavrivière, Louis Baudin. Ils seront donc tous près du Vieux-Port, à l'hôtel Beauvau, avec au menu des reportages, des rencontres avec les Marseillais. Tout cela en partenariat avec la Provence. Soyez au rendez-vous. On passe au foot, avec la suite et la fin de la 30e journée de Ligue 1.
Avec Vincent, la très mauvaise opération de Brest sur son terrain, les Bretons se sont inclinés 2-0 face à Monaco. Les buts sont signés Zakaria et Minamino. Conséquence, les Monégasques s'emparent de la deuxième place et les Brestois redescendent à la troisième. Les autres résultats du jour, Lille l'emporte 1-0 face à Strasbourg, Reims perd 2-1 sur son terrain contre Montpellier, défaite du Havre à domicile 1-0 face à Metz. Il reste deux matchs ce soir. Bonsoir Baptiste Durieux.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Le coup d'envoi de Toulouse, OM, devait avoir lieu à 19h, il a été décalé à 19h15. Que s'est-il passé ?
Arrivée tardive du quart de la délégation marseillaise au stadium de Toulouse, et puis à noter également quelques heurts et tensions sans gravité majeure entre supporters aux alentours de 17h. 1000 Marseillais, en tout cas, sont dans le parcage visiteur ce soir pour soutenir des Phocéens qualifiés cette semaine en demi-finale d'Europa League, mais qui patinent en championnat. L'OM reste sur 3 défaites de rang en Ligue 1. Les Marseillais pointent à la 10e place du classement, victoire impérative ce soir pour les hommes de Jean-Louis Gasset pour accéder aux places européennes. Pour ça, il faut battre le TFC juste derrière au classement 11e et qui reste sur une très belle dynamique en Ligue 1 avec 5 succès sur les 8 dernières rencontres.
Merci beaucoup Baptiste Durieux. Et on en a parlé en début de journal, ce choc ce soir au Parc des Princes à 21h, PSG Lyon. Rencontre à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro et toute sa bande. Un mot de cyclisme, Tadej Pogacar a remporté son deuxième Liège-Bastogne-Liège après un raid solitaire de 35 km. Le Slovène de 25 ans devance de plus d'une minute le Français Romain Bardet et le Néerlandais Mathieu Van Der Poel.
Le ciel avec un temps plutôt hivernal.
Avec des températures en dessous des normales, à quoi doit-on s'attendre demain, Caroline Chimo ?
Demain, lundi, les trois quarts du pays se lèveront sous un ciel franchement bleu. Ça va rester plus couvert vers les frontières de l'Est et les températures seront toujours bien fraîches pour la saison. En revanche, sur le tiers sud, le soleil restera bien présent. Il fera entre 10 et 14 en général et entre 15 et 16 degrés autour de la Méditerranée.
Et pour la semaine qui arrive, Caroline ?
Mardi, la fraîcheur sera de rigueur avec risque de gelée matinale sur une bonne partie du pays, averses et nuages dans le sud-ouest qui va constater aussi une baisse des températures. Il ne fera plus qu'une dizaine de degrés l'après-midi contre 16 aujourd'hui. Mercredi, toujours un risque de gelée matinale. La journée sera nuageuse des Hauts-de-France au sud-ouest avec le retour des averses près de la frontière belge. Jeudi, il fait toujours un temps plus printanier près de la Méditerranée et même si les températures remontent légèrement, la journée va rester assez nuageuse, voire pluvieuse sur les trois quarts du pays. Vendredi, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais les pluies et les nuages se seront bien installés. Les températures remonteront suffisamment pour espérer redépasser les 15 degrés dans l'après-midi, même dans la moitié nord.
Merci beaucoup Caroline Chimo.
Et merci à vous Gaëlle Giordana, bonne soirée. Il est 19h12, eh ben, écoutez, il est temps de refaire le sport, c'est à vous de jouer Isabelle Langer.
Du rugby, du cyclisme, peut-être de la gymnastique si Samira Ait Said arrive à se connecter, lui qui s'est qualifié pour ses 3e Jeux Olympiques.
En rugby, les Bleus, franchement, elles sont bien,
40-0.
Ouais. Elles ont pas vu le jour les Galloises.
Ah non, allez à tout de suite. Tout de suite.
RTL dimanche soir, RTL matin, l'angle éco.
Un salarié français qui tente de comprendre sa fiche de paye, c'est un peu Champollion devant la pierre de Rosette. En fait, à travers le bulletin de salaire, on retrouve toute l'histoire et la complexité du système social français qui n'a cessé de s'étoffer depuis la création des fiches de paye en 1931.
L'angle éco à 7h35.
À Lille Entrepote, c'est tout un programme. Passage par la Grand Place, détour dans le Vieux Lille, sa citadelle, ses fricadelles, ses frites, son Welsh. Là, votre pote vous dit...
C'est une tuerie, ce Welsh.
Mais ce que vous lui dites pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Anthony, directeur de l'hôtel Kyriade Lille, qui vous a partagé ses adresses pour un séjour au top. Avec l'offre évasion, des deux nuits réservées, Kyriade vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriade.com.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
On en parle.
La complémentaire santé solidaire proposée par l'assurance maladie vous aide à payer vos dépenses de santé. On en parle tout à l'heure avec Caroline qui bénéficie de ce droit.
Isabelle Langer sur RTL.
On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
Et surtout un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter chaque dimanche soir. Le service des sports vous accompagne jusqu'à 23h ce soir. Dans 45 minutes, je passerai le relais à Eric Silvestro pour RTL Foot avec à l'affiche une répétition de la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain entre le PSG et Lyon. D'ici là, retour sur la magnifique victoire du 15 de France féminin au Pays de Galles. Les Bleus ont surclassé les Galloises 40-0, de quoi marquer les esprits avant de recevoir l'Angleterre samedi prochain pour le titre du tournoi Destination. Nous serons en ligne avec l'une des joueuses, Lina Kerwa. En cyclisme, Tadej Pogacar a remporté pour la deuxième fois Liège-Bastogne-Liège. Romain Bardet prend la deuxième place. Nous appellerons notre consultant Laurent Jalabert dans un instant. Et puis c'est la bonne nouvelle de la semaine, le gymnaste Samir Aït Saïd a validé son billet pour les Jeux Olympiques. Il nous racontera son soulagement. Et puis nous accueillons un invité très spécial. Il n'est ni champion ni athlète de haut niveau, encore que. Bonsoir Jérémy Milgram.
Bonsoir.
Vous êtes chef de groupe à la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention, et vous venez de publier Les Anges Gardiens du 36 chez Mareuil Édition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si je vous ai invité ce soir, c'est parce qu'effectivement, comme je le disais en préambule, vous et vos hommes êtes pour moi plus que des athlètes de haut niveau. Nous allons longuement deviser sur le sujet avec Benoît Lallemand, le chef du service des sports du Parisien aujourd'hui en France, qui va nous rejoindre dans un instant. Le Parisien, notre partenaire, et avec nous, comme tous les dimanches soirs, Quentin Vasselin. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
Pour commencer, on fait le point sur la 30e journée de Ligue 1. Monaco prend la deuxième place à Brest.
Oui, victoire 2-0 des joueurs de la Principauté sur le stade de Brest avec des buts de Denis Zakaria et Takumi Minamino. Cinquième victoire de suite pour Monaco à l'extérieur, qui est donc le dauphin du PSG ce soir et compte 8 points d'avance sur Nice, cinquième du classement. Pour Brest, c'est un coup d'arrêt. Deuxième défaite de suite après un dimanche soir dernier cruel pour les Bretons. Lille a également pris 3 points précieux avec sa victoire 1-0 contre Strasbourg, but de Jonathan David à la 12e minute. Les Lisois reviennent à un point des Brestois. Le match contre Monaco ce mercredi sera décisif pour la Ligue des Champions.
Metz est totalement relancé dans la course au maintien.
Oui, les Grenats s'imposent 1-0 sur la pelouse du Havre grâce à l'inévitable Miko Tadze. Metz sort de la zone rouge et compte un point d'avance sur leur adversaire normand du jour, le Havre, qui n'a marqué qu'un but et pris qu'un seul petit point lors des 4 dernières rencontres. Ils sont barragistes ce soir. Enfin, Montpellier a définitivement assuré sa place en Ligue 1 grâce à sa victoire à Reims de buts à 1. Maudibo Sagnon et Moussa Altamari permettent aux Héroletais d'avoir 8 points d'avance sur le barragiste ce soir. Puis il y a un petit match de foot au stadium qui a débuté avec 15 minutes de retard. Isabelle Langer, Toulouse reçoit l'Olympique de Marseille 15 minutes de retard parce qu'il y a eu des problèmes avec les 1000 supporters marseillais devant le stade, ce qui a contraint le bus marseillais d'arriver avec un petit peu de retard. Du coup, ça vient de partir. Deuxième minute de jeu, 0-0 entre Toulouse et l'OM.
À 21h, le PSG reçoit Lyon pour une répétition de la finale de la Coupe de France. Je le disais, dans 5 semaines, c'est à suivre dès 20h dans RTL Foot avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Baptiste Durieux et Nicolas Georgerot au commentaire. Bonsoir Benoît Lallemand.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Pardon pour ce léger retard.
La cagnotte.
Je vous en prie, c'est une petite pièce dans le petit cochon.
Avec grand plaisir.
Allez, on commence tout de suite avec le cyclisme. La doyenne des classiques a sacré Pogacar. Le Slovène s'est imposé pour la deuxième fois de sa carrière dans la dernière classique ardennaise de l'année. Bonsoir Laurent Jalabert.
Isabelle.
Bonsoir, vous êtes notre consultant. Il s'est envolé à 34 km de l'arrivée dans les pourcentages violents du col de la Redoute. Personne ne l'a revu.
Non, c'est vrai que c'était un scénario attendu. Pogacar était le plus fort, on s'en doutait, même s'il n'a pas couru depuis bien longtemps. Il s'est bien préparé, il va courir le Tour d'Italie dans 2 semaines, où il espère gagner. Donc on imaginait bien qu'il allait être dans une forme éblouissante. Et ce parcours, c'est du coup humain pour lui. Les conditions météo, ce sont des conditions sur lesquelles il évolue toujours très très bien. Et pour le coup, voilà, tout était réuni pour que ça se passe à merveille. Son équipe a pris les choses en main, elle a durci la course. Et quand il l'a décidé dans la Côte de la Redoute, il a fait la différence.
Benoît ?
Oui, bonsoir Laurent. Est-ce qu'il nous a pas manqué un petit duel quand même avec Mathieu Van Der Poel ?
Bien sûr que ça nous a manqué. Alors on ne saura jamais si Van Der Poel aurait pu accrocher un peu mieux que ça Tadej Pogacar, s'il n'avait pas été contraint de produire un gros effort à une centaine de kilomètres de l'arrivée alors qu'il était coincé par une chute qui l'a retardé. Hein, 1:30 de retard à ce moment-là. Bon, il a dû y laisser des forces dans la poursuite, bien qu'il n'ait pas roulé lui-même pour revenir devant, Mais bon, Pogacar sur ce type de terrain et Van Der Poel avec la campagne de classique qui est la sienne et le manque de fraîcheur qu'il a aujourd'hui, je pense que le match était couru d'avance. Pogacar était au-dessus.
Van Der Poel qui a quand même fini 3e grâce au sprint et 2e juste devant Van Der Poel, mais juste derrière Pogacar. La belle surprise, Romain Bardet qui a fait une course, Laurent, fantastique.
C'est vrai, derrière Pogacar, qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux qu'une 2e place finalement? Et Bardet a été éblouissant. Il a été opportuniste comme il l'est à chaque fois. Il a attaqué, il est parti dans un contre, il s'est débarrassé de ses collègues dans la dernière bosse, la Rochefaucauld. Alors il a fait un effort quand même solitaire d'une 15aine de kilomètres pour résister au retour du peloton pour la 3e place. Il ramène à cette 2e place lui. C'est son meilleur résultat sur Liège. Il avait déjà terminé une fois 3e. Chapeau, Bardet qui a 30, je sais plus quel âge il a d'ailleurs, une 30, 35 ans peut-être.
Qui se questionne sur la suite de sa carrière.
Oui, il se questionne parce que c'est devenu un sport tellement compliqué au quotidien, avec des sacrifices qui sont de plus en plus difficiles à supporter. Hein. Partir de longues semaines en altitude, s'entraîner loin de la famille, quand on est père de famille comme il est, quand on a fait une longue carrière, c'est difficile de garder la motivation.
Laurent Jalabert, prochain rendez-vous pour Pogacar, le Giro, c'est ça, début mai ?
Oui, le Giro, effectivement, ouais, qu'il espère remporter, qu'il n'a jamais couru, et bon, on peut se douter qu'il sera difficile à battre. Hein. Il a préparé son affaire.
Merci beaucoup, Laurent Jalabert. À bientôt. Allez,
avec
bonne soirée.
Plaisir.
Le reste de l'actualité, Quentin, c'est la Formule 1 tout d'abord.
Oui, nouveau succès pour Verstappen avec sa Red Bull, le 4e en 5 Grands Prix pour le Néerlandais. Cette fois-ci, c'était en Chine. Bonsoir, Frédéric Veil. Bonsoir. C'était une première néanmoins pour Verstappen qui n'avait jamais gagné à Shanghai. Shanghai qui retrouvait une course après les années Covid.
Eh oui, c'est ça, il n'y avait pas eu de Grand Prix depuis 2019. À l'époque, c'était Hamilton, les grandes années Hamilton. Hamilton l'avait emporté. Ben là, c'est Max Verstappen, Max et sa Red Bull qui sont décidément sur une autre planète en ce début de saison. Le triple champion du monde au volant de la meilleure monoplace du plateau. Eh bien, ça a démontré une nouvelle fois qu'il n'y avait pas de concurrence puisqu'il s'impose largement avec 13 secondes d'avance sur la McLaren de Lando Norris et près de 20 secondes sur Sergio Perez. Shanghai, vous l'avez dit, c'était l'un des rares circuits où il ne s'était pas encore imposé.
Il y a eu un beau retour de Fernando Alonso, ça vous a plu ça, Frédéric ?
Ah ouais. Honnêtement, Fernando Alonso a encore brillé ce matin en Chine, il est parti 3e hein, déjà, et puis en fin de course il a décidé de passer au stand pour une 3e fois et de finir en pneu médium. Là il est ressorti des stands, il était 12e, il a entamé une fabuleuse remontée en doublant Albon, Ocon, Hülkenberg, Hamilton et Piastri. Il s'est même permis de se faire une grosse frayeur à la sortie du dernier virage en mordant le bac à gravier et en partant complètement au travers, mais Alonso reste un pilote d'exception, il a mis miraculeusement, eh bien, a réussi à remettre son Aston Martin sur la piste pour finalement terminer 7e avec le point du meilleur tour en course. Faut pas oublier, hein, l'Espagnol aura 43 ans en juillet prochain et il vient de prolonger son contrat de 2 ans avec son écurie. Chapeau, monsieur Alonso.
Alonso qui a été malgré lui cité dans le nouvel album peut-être de Taylor Swift. Serait-il l'une des conquêtes de la chanteuse américaine?
Ça se confirme.
Affaire à suivre. On est loin des gossips avec les Alpines de Esteban Ocon et de Gasly qui sont encore hors des points mais qui se rapprochent.
Ouais, là c'est plutôt les gros slips hein, parce qu'ils y arrivent vraiment pas, c'est des slips en plomb en tout cas, même si l'Alpine est arrivée en Chine avec des évolutions, avec une voiture un petit peu plus allégée que d'habitude sur la monoplace d'Esteban Ocon uniquement, eh bien ils ont quand même montré des signes encourageants puisqu'ils n'ont pas terminé en fin de classement, mais Esteban Ocon échoue pile aux portes des points puisqu'il termine 11e, il était parti 13e, Pierre Gasly lui termine 13e, ça commence à aller mieux du côté de chez Alpine. Mais c'est pas encore ce qu'on attendait en début de saison et ce qui nous était promis.
Benoît, je vous sens...
Mieux, vite dit. Moins pire, on va dire.
C'est ça, moins pire. C'est ça, moins pire, Benoît. Vous avez trouvé la bonne phrase.
Fred, il y avait les 24 heures du Mans Moto. Je sais que vous avez eu un œil dessus avec une Suzuki qui s'est imposée. Hein.
Exactement, et ça c'était la belle nouvelle du jour, la Suzuki numéro 12 qui s'était imposée. Oh, c'était presque logique que ce soit elle qui s'impose aujourd'hui. En tout cas, ce sont les Français Greg Black, Etienne Masson et le Britannique Dan Linfoot qui ont remporté cette 47e édition. Il y avait 48 motos au départ, seuls 29 ont franchi la ligne d'arrivée, mais bravo à Suzuki.
15e victoire, un record pour la marque Nippon qui donc a battu ce record devant 70 000 personnes venues voir les motos sur le Bugatti.
Et il y avait un record d'affluence en plus, encore une fois, Fred, hein.
Ouais, plus que 74 ou 75 000, donc ouais, beau record. Il faut dire qu'il faisait beau, même s'il faisait frais. Mais voilà, la moto attire toujours du monde.
Il y avait première parade dans les rues du Mans, comme pour les voitures.
Exactement, c'était jeudi ou vendredi, parade dans les rues de la ville. Ça a été un gros succès populaire, en tout cas, belle organisation.
Une place des Jacobins, comme d'habitude, ça a brillé de mille feux devant la cathédrale Saint-Julien, magnifiques images.
Merci beaucoup, Fred Veil. À la semaine prochaine, on le dit à nos auditeurs, ce serait une spéciale Ayrton Senna, 30 ans après le décès du pilote brésilien. À la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Allez, sans plus attendre, on va prendre la direction de Cardiff où le 15 de France féminin a dominé le Pays de Galles 40-0 dans l'avant-dernier match du tournoi Destination. Et on est en ligne avec Romane Ménager. Bonsoir, Romane.
Bonsoir.
Dites donc, quelle belle promenade de santé à Cardiff. 6 essais, 2 mi-temps équilibrés, puisqu'à la fin de la première période, il y avait déjà 19-0.
Oui, très contente du score. Après, forcément, il y a encore beaucoup de points à corriger, mais très contente du score. On a réussi à garder la tête haute et à rendre une belle prestation, même si on a été en difficulté.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu quand même 3 cartons jaunes, donc 3 fois 10 minutes d'expulsion pour les joueuses. Vous étiez en infériorité numérique. Malgré cela, les Galloises, elles n'ont jamais trouvé la faille. Hein.
Oui, je pense qu'on a un très beau groupe et c'est ce qui transpire là aussi. Je pense qu'on a confiance les unes aux autres et même si on se retrouve à 14, ben, on l'a pas mal vécu et on a réussi à se resserrer et à très bien jouer ensemble.
Benoît ?
Oui, vous parlez de points améliorés. Quels sont les points améliorés ? Est-ce que c'est possible de le faire d'ici le prochain match, une finale contre l'Angleterre ?
Oui, bien sûr. Ben là, je pense qu'au niveau de la conquête en touche, on n'a pas été très performante aujourd'hui. On a été très bien contrés par l'équipe galloise et on sait que ça va être un point sur lequel on va beaucoup travailler cette semaine. Et oui, bien sûr, en une semaine, on peut très bien le réguler et c'est ce qu'on va faire.
C'est vrai que samedi prochain, vous jouerez le titre de ce tournoi des 6 nations contre l'Angleterre. Ce sera à 17h45 à Bordeaux. Tout le travail, il va être cette semaine concentré sur ce crunch.
Oui, forcément, on est là sur la dernière semaine et on veut finir en beauté, on veut se récompenser un petit peu des efforts et le groupe, je pense, a hâte d'être au match. Maintenant, on va bien bosser cette semaine pour essayer de se donner tous les moyens pour faire une grosse performance.
L'Angleterre, que vous avez un mal fou à battre. Hein,
ouais, c'est votre bête noire. Hein.
Oui, bah c'est une très belle équipe. On l'a vu encore dans ce tournoi, elles ont fait des très grosses performances. Donc, on sait qu'il faudra sortir un très gros match pour réussir à les battre. Mais en tout cas, on va bosser pour et on a juste hâte.
Elles ont passé 88 points à l'Irlande.
Oui, ça c'est une équipe qui arrive très bien à rentabiliser ces bons moments et forcément à nous de les faire déjouer le week-end prochain, on espère.
On a envie d'avoir, Romane, une belle opposition le week-end prochain parce que c'est vrai que les matchs du tournoi Destination Féminin sont un peu déséquilibrés. Là, il faut absolument qu'on ait un affrontement entre deux belles équipes qui jouent la gagne toutes les deux.
Oui, là, je pense que on attendait ça. On savait que ça allait pas être facile et qu'il fallait se donner les moyens. On a réussi à le faire. Maintenant, il faut finir en beauté et se récompenser de tout le travail qu'on a fait en amont.
Romane Ménager, il y avait 46 000 spectateurs hier à Twickenham. Ça vous fait rêver? Vous vous dites, voilà, samedi prochain à Chaban-Delmas, il y a 33 000 places, je crois. Il faut que, voilà, les Français répondent présents, qu'ils viennent vous soutenir.
Oui, on espère que le stade sera plein, qu'il y aura une grosse ambiance pour être derrière nous. On aura besoin de ça et je pense que les gens seront présents.
Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, lancez votre appel là. C'est le moment, Romane. Vous êtes une belle équipe, des super joueuses. On a même vu 3 joueuses, c'est ça, du rugby à 7 qui disputeront les Jeux Olympiques cet été, venir vous donner un coup de main là. Voilà, c'est une belle équipe qu'il faut venir voir.
Ah oui, ben là, je pense que ça sera un très très gros match, un très beau match, Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens et j'espère que les gens seront au rendez-vous parce que ça sera un gros événement pour le rugby féminin et on espère qu'il y aura beaucoup de monde pour faire encore une grosse prestation.
Benoît. Oui, une finale de tournoi, un France-Angleterre. À Bordeaux, il y a tout pour plaire.
Oui, il y a pas mieux comme match.
Il faut juste espérer que le soleil soit là, c'est plus sympa.
Oui, c'est beaucoup plus sympa avec le soleil, on espère, mais dans toutes les conditions, on sera au top.
Eh bien, nous, on sera derrière vous. Merci beaucoup, Romane Ménager, d'avoir été avec nous ce soir. Bonne continuation, surtout bonne préparation pour ce crunch. On le rappelle, 17h45 à Bordeaux, samedi prochain, à Chaban-Delmas. Le reste de l'actualité sportive, Quentin.
C'est avec Sébastien Ogier,
voilà,
qui retrouve le goût de la victoire. En rallye, le Français s'impose au volant de sa Toyota sur les routes croates devant Elphine Evans et Thierry Neuville. 59e succès en carrière pour Ogier. Le Belge Thierry Neuville conserve la tête du championnat du monde.
Marathon de Londres, pas de minima malheureusement pour Hassan Shaidi malgré un record personnel.
Oui, le Français termine à une belle 5e place mais il ne bat pas le record de France. Shaidi a bouclé le marathon londonien en 2h07 et 30 secondes. C'est le Kenyan Alexander Muniao qui s'est imposé en 2h04 et 1 seconde devant Kenenisa Bekele, plus de 40 ans. Voilà, ça nous rappelle de beaux souvenirs chez les
Bekele, toujours là.
Ouais. Et c'est souvent
souvent sur le podium chez les femmes. Victoire et record du monde pour la Kenyane Perez Jepchirchir, la championne olympique en titre de 30 ans qui a mis 2h16 minutes et 16 secondes dans une course, Isabelle, 100% féminine aujourd'hui dans les rues de Londres. Étonnant.
Oui, étonnant. Alors, ça lui permet de battre le record du monde du marathon dans une course féminine, c'est-à-dire sans lièvre et sans pouvoir s'appuyer entre guillemets sur des garçons.
Donc ça relève sa perf.
Extrêmement belle performance, oui.
On rappelle que le marathon féminin clôturera les Jeux Olympiques de Paris et ce sera la première fois que les filles termineront.
Quel jour, Isabelle ?
La fin des Jeux, le 11 août. Hein. Merci pour la petite colle. Là, j'ai le cerveau qui capte plus par moment. Le tennis, la finale de Barcelone était un remake de la finale de Monte-Carlo la semaine dernière.
Oui, et cette fois, victoire de Casper Ruud qui a pris sa revanche en battant Tsitsipas, en 2-7, 7-5, 6-3. Jan Lennard Struff a remporté lui le premier tournoi de sa carrière à Munich sur la terre battue. Victoire en 2-7 contre Taylor Fritz, 7-5, 6-3. La veille, il avait atomisé Holger Rune, 6-2, 6-0. C'est à noter parce qu'on est quand même à quelques jours du tournoi de Madrid, on est à quelques jours surtout du tournoi de Roland-Garros.
Il y a encore un petit mois de préparation sur la terre battue.
Se faire gifler 6-2, 6-0, c'est quand même pas neutre. Et chez les femmes, Rybakina s'impose à Stuttgart, succès 2 fois 6-2 contre Kostiuk. Elle a battu la veille Swiatek en finale.
Ouais, ça aussi, c'est pas mal,
hein. Ce n'est pas neutre. Sloane Stephens en gagne, elle, le tournoi de Rouen.
Où Caroline Garcia a repris un tout petit peu des
couleurs. Elle était en 2000, la française.
Exactement. On marque une courte pause, il est 19h31, à tout de suite.
On refait le sport.
Avec le Parisien aujourd'hui en France,
Isabelle Langer.
On en parle.
La complémentaire santé solidaire proposée par l'assurance maladie vous aide à payer vos dépenses de santé. On en parle avec Caroline qui est hôtesse de caisse et en bénéficie. Bonjour.
Bonjour.
Alors comment avez-vous appris que vous pouviez bénéficier de la complémentaire santé solidaire ?
Eh bien, comme je travaille, je ne pensais pas avoir droit à ce genre d'aide. Puis un jour, j'ai discuté avec une collègue qui a les mêmes revenus que moi, et puis je me suis rendu compte que c'était possible.
Et qu'est-ce que ça a changé pour vous ?
J'ai pu suspendre ma mutuelle d'entreprise, qui était moins avantageuse pour moi, et maintenant, avec la complémentaire santé solidaire, j'ai plus rien à payer pour mes frais de santé. Le pédiatre pour mes enfants, ou même mon dentiste.
Merci beaucoup, Caroline.
On en parle. Pour vérifier votre droit à la complémentaire santé solidaire, rendez-vous sur amélie.fr.
Pour ce week-end en amoureux à Marseille, elle vous sort le grand jeu. Sortie en bateau, coucher du soleil en bord de mer, dîner aux chandelles dans le resto du coin, il vous dit
« Merci chérie, c'est trop !»
Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Maxime, le directeur de l'hôtel Kyria de Marseille, qui vous a préparé ce programme aux petits oignons. Avec l'offre évasion, des 2 nuits réservées, Kyriade vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriade.com.
Vous savez que le sang permet de soigner des cancers ou des maladies du sang ? Moi, le jour où je l'ai appris, j'ai eu le déclic. Je suis devenue donneuse. C'est ma manière à moi de ne jamais me sentir impuissante. Et quand je pense à tous ces patients qui peuvent guérir et vivre à nouveau normalement, je me sens vraiment fière.
Rendez-vous sur le site Don de sang de l'établissement français du sang.
Isabelle Langer sur RTL.
On refait le sport jusqu'à 20h.
Avec le Parisien aujourd'hui en France.
Avant d'accueillir notre invité Quentin Vasselin, le point sur le match de l'après-midi de 19h15, Toulouse-Marseille.
Toulouse-Marseille, 18e minute de jeu, 0-0 entre les deux équipes. Il y a eu une très grosse occasion pour les Toulousains à la 10e. Balerdi a dû sauver sur sa ligne. Donc voilà, un match relativement équilibré, même si Toulouse a eu la plus grosse occasion. 0-0, l'OM qui doit absolument gagner s'ils veulent encore croire à un avenir européen via le championnat.
Oui, parce que... Ils peuvent aussi croire à un avenir européen via la Coupe d'Europe.
C'est tout ce que s'ils gagnent l'Europa League, ils seront en Ligue des Champions. Mais on n'en est pas encore là.
On n'en est pas encore là. Allez, on accueille notre invité, Les Anges Gardiens du 36. C'est le livre que vient de publier Jérémy Milgram chez Mareuil Éditions. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nous regarder en vidéo, pas d'image du studio ce soir et pour cause. L'auteur des Anges Gardiens du 36 est chef de groupe de la BRI et n'a donc pas le droit de montrer son visage. Merci encore, Jérémy, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, les auditeurs doivent se demander pourquoi vous êtes là ce soir. Eh bien, tout simplement parce que pour moi, à l'instar du RAID et du GIGN, les hommes de la BRI, vous êtes aussi des sportifs de haut niveau, si ce n'est plus. Alors nous allons en parler longuement, mais tout d'abord, pourquoi vous avez écrit ce très joli livre, Jérémy ?
Alors ce livre, c'est né d'une rencontre avec un illustrateur qui est également policier, qui m'a un peu soumis l'idée, on s'est mis d'accord tous les deux. Et c'était pour nous le moyen de faire partager au public, au plus grand nombre, un petit peu la vie d'un opérateur de la BRI. Sans pour autant révéler de secrets, ouais. Mais c'est plus une ambiance et ça permet un petit peu de vivre de l'intérieur ce que peuvent vivre des opérateurs de la BRI.
En fait, vous avez mixé plein d'interventions et vous avez reconstitué des histoires.
C'est ça, c'est un recueil de 10 nouvelles qui sont basées sur de l'expérience vécue.
Avec des belles illustrations quand même.
Très bien illustrées par Jean-Charles. Et qui donne vraiment, il a su avec ses illustrations donner le ton du livre.
Moi, j'ai été bluffée parce que par moments, j'avais l'impression de lire une vraie histoire. Je me disais, ah, ça se raccroche à quoi et tout. Forcément, on essaye de faire des parallèles.
Alors, c'est du vécu. Hein.
Ouais.
Tout est mixé, c'est du vécu. On évite de raconter les vraies opérations, donc on reconstitue les opérations, mais le fond est assez vrai quand même.
Ça fait combien d'années que vous êtes à la BRI, Jérémy ?
Je vais entamer ma 18e année.
Ça fait longtemps.
Ça commence à faire un petit peu longtemps.
Vous avez fait autre chose avant ?
Oui, avant j'étais professeur d'éducation physique et sportive.
Ah. Ouais.
Donc j'ai fait tout le cursus STAPS, ouais. Sciences et techniques et activités physiques et sportives. C'est là où j'ai pu d'ailleurs côtoyer pas mal de sportifs de haut niveau dans les promotions que j'avais. Et ensuite j'ai bifurqué vers ce métier passion là, qui est la police. J'ai d'abord travaillé dans le 93 assez longtemps. Et ensuite, j'ai pu intégrer la BRI Paris, la BRI de la préfecture de police de Paris.
Alors, moi, je suis néophyte. Hein. Comment on rentre à la BRI ?
Alors, comment on rentre à la BRI ? C'est un
sportif.
Ouais, alors, c'est un processus un peu long de sélection qui a beaucoup évolué, mais qui s'est un petit peu stabilisé ces dernières années. Il y a plusieurs phases. Il y a une phase on se présente tout simplement avec test psy et ensuite on est intégré. Alors d'abord ça ne concerne que les policiers, il faut le dire, avec une certaine expérience.
D'accord.
On ne va pas prendre des gens trop jeunes. Ensuite il y a une semaine qui est assez difficile. On travaille beaucoup sur le manque de sommeil et on confronte les candidats à des situations qu'ils doivent résoudre en groupe. De manière individuelle, on regarde un petit peu leur rendu et au fil de la semaine, on arrive à recueillir, à sélectionner quelques profils qui vont nous intéresser.
Il ne faut pas de tête brûlée à ce moment-là.
Alors, au contraire. Nous, on s'inscrit vraiment dans un travail de groupe, un travail d'équipe. Donc, on a besoin de gens stables. C'est pour ça également qu'on ne veut pas recruter des gens trop jeunes.
Parce qu'une unité de la BRI, ils sont composés toujours d'un certain nombre de personnes. On ne peut pas être en dessous ce nombre.
Alors, la BRI de la préfecture de police est un petit peu particulière de par son organisation. Mais en gros, un groupe de base de la BRI à Paris, c'est une quinzaine de personnes, soit une équipe de rugby en gros.
D'accord. Vous êtes le chef ?
Moi, je suis le chef.
Entraîneur ou capitaine ?
Les deux.
C'est ça, les deux. Le colonel, comme dirait l'autre. C'est un peu la difficulté de l'emploi, quoi. Mais effectivement, donc on est au cœur de l'action. Et en même temps, on doit gérer 15 personnes sur des missions qui sont assez variées. Un peu comme avec des gabarits différents, avec des personnalités assez fortes, puisque comme je vous l'ai dit, on cherche des personnalités.
Et donc tout,
des égos. Ouais. Fatalement. Mais je pense que c'est lié à la fonction. Et la passion aussi amène de l'ego.
Mais en fait, un sportif, c'est aussi de haut niveau. Souvent, on le sait, et pour réussir, il faut qu'ils aient un ego. Donc
Mbappé,
c'est un peu la même chose. Hein.
Ouais, alors, on ne prononcerait pas sur Mbappé. Mais ouais, en tout cas, il en faut.
Ouais.
Et en même temps, il faut savoir mettre son ego de côté. À certains moments, au profit du groupe, de l'équipe, de l'unité et de la mission.
Il y a une vraie préparation ?
Il y a une préparation. Il y a une vraie préparation. C'est là un petit peu l'analogie avec le sport de haut niveau. Il y a une préparation physique, puisqu'on est, on a du matériel qui est lourd, qu'on doit être en mesure d'utiliser au mieux, dans des positions qui ne sont pas toujours très anatomiques. La vraie différence avec le sport de haut niveau, c'est que l'échéance, il n'y a pas vraiment d'échéance pour nous. Le sport de haut niveau se construit autour d'une échéance, que ce soit les JO, je sais pas, d'Europe, du monde, une préparation. Il faut être au top le jour J. Nous, c'est un peu, si je voulais faire une comparaison avec le sport de haut niveau, c'est un peu comme si on appelait un athlète à 22h10 en disant qu'à 22h15, il allait faire sa finale du championnat du monde. Donc c'est un peu là où ça diverge un petit peu. Sur
vous faites du sport combien d'heures par semaine, par jour? Enfin, vous, la préparation physique, c'est...
La prépa physique, elle se fait quand l'émission le permette. Mmh. On est à peu près une heure et demie, quatre, cinq fois par semaine. Mmh. Donc c'est assez soutenu quand même. Surtout si on veut durer dans le métier.
Combien de femmes sont dans votre équipe?
Alors, pour l'instant, on a une femme dans le staff de direction.
Ok.
Et en ce qui concerne les opérateurs, on a deux femmes qui se sont présentées au test de sélection, mais pour l'instant, qui n'ont pas été au bout. Mais je suis quasiment sûr que dans les prochains mois, les prochaines années, on aura une femme qui va convenir. Notamment avec le développement du tout ce qui est crossfit, on a des femmes qui sont de plus en plus physiques et qui sont même à égalité avec certains hommes sur l'aspect physique.
C'est qu'une question de physique ou il y a aussi peu de femmes qui postulent à ce genre de fonction?
Il y a effectivement moins de femmes qui postulent, parce que c'est assez nouveau, même si ça a toujours été ouvert, hein, de fait, il n'y a pas eu de ségrégation là, à ce niveau-là. Mais je pense que c'est une question de temps, et quand une femme se présentera et qu'elle fera l'affaire, ça ne posera de problème à personne.
Benoît.
Qu'est-ce que vous allez faire pendant les Jeux Olympiques?
Alors, tout ce que je peux vous dire, parce que moi, mon propos est assez réduit, je suis assez limité dans ce sur quoi je peux communiquer, c'est qu'avec le RAID et le GIGN, les trois forces d'intervention françaises, nous allons travailler de concert pour que les JO se passent, les JO de Paris se passent au mieux.
C'est la première fois qu'il y a une synergie entre les trois unités d'intervention?
À ma connaissance, sur un même événement, oui, c'est la première fois.
C'est porté par le préfet de Paris actuel?
Exactement.
Qui est quand même quelqu'un qui a l'expérience de beaucoup de services et qui, du coup, vous permet d'avoir cette synergie, peut-être?
Complètement. Alors là, moi, je vais un petit peu botter en touche parce que l'aspect institutionnel, j'ai pas vraiment trop le droit d'en parler, mais effectivement, tout ça est porté par monsieur le préfet de police.
On rappelle que la BRI est devenue une unité d'intervention en 1972 et finalement, c'est assez lié aux Jeux Olympiques.
Ah oui, alors, les JO et la BRI ont une histoire commune puisque malheureusement, en 72, il y a eu une attaque terroriste d'un groupe palestinien à l'encontre d'une délégation israélienne. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'unité spécialisée dans le contre-terrorisme. Et les Allemands donc, ont fait un petit peu ce qu'ils ont pu, mais ça s'est soldé par la mort de tous les otages d'un des leurs. Donc ça a été comme un coup de fouet et un rappel pour tous les pays européens et pays d'Occident en général qui se sont dit « il nous faut des unités capables de répondre à ce genre de menaces ». En France, la première unité... à qui on a fait appel pour cette mission-là, c'était la BRI, qui existait depuis 1964.
Les 60 ans d'ailleurs.
On fête les 60 ans cette année, donc on fête les JO à Paris et les 60 ans de la BRI. C'est fantastique pour nous.
C'est une grande 80 ans du Paris.
Exactement, c'est une grande année, exactement. Et avant la BRI, avant 72, son travail c'était uniquement de s'occuper notamment des braquages de banques qui étaient beaucoup de braquages de banques à Paris, de la criminalité violente. Donc en 72, le pouvoir politique donne à la BRI cette mission-là, cette mission d'intervention. D'être capable de faire face à une menace, contre-terroriste ou gestion de crise sur le territoire national. Donc la BRI en premier lieu, le GIGN quelques mois plus tard, et le RAID, qui est l'unité nationale, qui sera formée en 1985.
Si on refait un parallèle avec les sports, tout à l'heure vous parliez de carrière longue quelquefois, il n'y a pas d'âge limite chez vous?
Non, il n'y a pas d'âge limite parce qu'effectivement on s'est aperçu qu'il y a des gens, l'âge biologique et la performance sont un peu décorrélés et on peut avoir des gens de 30 ans qui sont moins performants que des gens de 45 ans. Et ensuite, l'expérience aidant, on trouve des postes qui sont plus adaptés en fonction de son âge.
Et qui décide que... on est plus apte physiquement ou plus apte à faire partie de...
Le mieux, c'est que ce soit la personne elle-même qui s'en rende compte et qui l'anticipe, ce qui n'est pas facile.
Puisque... Les sportifs n'y arrivent pas toujours non plus.
Non, voilà, ça c'est assez difficile. Mais comme on vit en vase clos, un groupe BRI, c'est des gens qui vivent quasiment...
c'est une famille.
14 sur 24. Alors c'est une famille avec tous les défauts et les qualités d'une famille. Normalement, le groupe va faire comprendre à l'opérateur en question, ou alors la hiérarchie peut lui proposer également une porte de sortie. Ça se fait assez naturellement.
Quand vous dites que vous vivez 24 heures sur 24 ensemble, c'est une image ou c'est réellement...
C'est une image, mais ça peut, sur certaines périodes, l'être, fatalement. Comme on cumule les deux missions d'intervention et on continue de faire de la police judiciaire, c'est-à-dire qu'on suit des voyous, et on essaie de les attraper avant qu'ils commettent leur crime, ça nous fait passer quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble. On passe plus de temps avec nos camarades, d'ailleurs, qu'avec les familles.
Et par rapport à la fin de carrière, est-ce que c'est plus un problème physique ou plutôt un problème psychologique ? Parce que c'est quand même des métiers très éprouvants et j'ai l'impression, en tout cas de là où je me place, qu'il y a plus de la dimension psychologique à gérer que le physique finalement.
Le physique, quand ça ne suit plus, c'est flagrant. Et on ne peut pas faire autrement. Le psychologique...
Ça peut être insidieux, en fait.
Oui, psychologique, c'est plus dur. Déjà, il y a la peur de quitter ce genre d'unité, parce que c'est quand même quelque chose de très particulier. Et tous les gens qui ont rejoint l'unité sont des gens passionnés. Et de savoir à quel moment partir... je prends l'exemple de 2015, on a été confronté un peu au pire. On a très peu de gens qui ont quitté l'unité, en tout cas, pour ces raisons-là, pour des raisons de stress ou pour des raisons de stress post-traumatique, par exemple. Et ça, je pense que c'est la force du groupe.
Vous parlez justement du Bataclan. Dans la préface de votre livre, Olivier Marchal écrit « Milgram et sa bande de chiens fous vaccinés à la bravoure et à l'adrénaline, je les ai connus avant et après le Bataclan. J'ai vu leurs regards qui avaient changé, leurs âmes meurtries. Le Bataclan, c'est le moment le plus traumatisant de votre carrière ?»
Alors, c'est du Marchal tout craché, hein.
Oui.
Mais effectivement. Le producteur de film, faut le rappeler, Olivier Marchal.
Ouais, réalisateur, acteur.
Et ancien flic.
Et ancien flic. Je le salue parce que il a toujours été là pour nous. Et effectivement, il y a un avant, un après. Alors, fatalement, on s'en sort pas indemne. Tout a changé chez nous. Tout a changé. L'esprit a changé. La doctrine a changé. On a gardé quand même la police judiciaire qui est notre ADN parce que ça, il faut pas qu'on le perde. Mais c'est vrai que notre travail a changé. C'est la première fois en Occident qu'on faisait face à des gens qui étaient déterminés à mourir et en emmenant le plus de policiers et de gens d'ailleurs avec eux. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau pour nous. Nous, notre quotidien, même si la BRI avait eu affaire à du terrorisme, notamment d'extrême gauche dans les années 80, ça, le terroriste, je vais pas dire kamikaze, parce que c'est le terroriste qui veut mourir en emmenant le plus de gens possible avec lui, c'est quelque chose de très nouveau pour nous.
On peut s'arrêter deux secondes sur le Bataclan, parce que vous avez fait partie, avec votre groupe, d'une des colonnes en fait qui est rentrée dans le Bataclan pour libérer les otages. Qu'est-ce qui vous a choqué quand vous êtes rentré dans le Bataclan ?
La première vision, ce qui est le plus choquant, c'est l'arrivée, donc la première vision que nous on découvre. Il y a la BAC Nuit qui a fait un travail extraordinaire, puisqu'elle a fait cesser la tuerie de masse. Mais nous, quand on arrive, on découvre un spectacle assez glaçant. On a entre 6 et 700 personnes qui sont au sol.
C'est une scène de guerre.
Ah ouais, je dirais même un charnier, parce que la guerre, c'est une scène de guerre quand on entend un petit peu de chaos, ça pourrait tirer. Là, c'est le silence absolu, à part quelques râles, des téléphones qui commencent à sonner, les spots sont allumés, donc il y a une lumière très blanche sur tous ces corps, et notre première impression, quand on relève nos amis de la BAC Nuit, c'est de se dire, en fait, tout le monde est mort. Et après, on réalise qu'en fait, non, des gens jouent les morts parce qu'ils se faisaient tuer s'ils bougeaient. Et qu'en fait, devant nous, il y a à peu près, on va dire, une centaine de morts, plus de 300 blessés et 300, 400 personnes qui jouent les morts. Ça, c'est une scène qu'on ne peut pas oublier.
Vous êtes resté en contact, d'ailleurs, avec certains des otages.
Oui, tout à fait. Notamment ceux qu'on a libérés dans le couloir, disons, à travers leur association, qui s'appelle Life for Paris. Et ils viennent nous voir régulièrement, on les croise à chaque commémoration, et on a effectivement gardé des liens avec eux.
Pourquoi ?
Au début, ça venait plutôt d'eux, parce que nous, on évite...
Ouais.
Par affect, enfin de mettre trop d'affect un petit peu dans ce qu'on fait, un petit peu comme des médecins, parce que sinon c'est trop compliqué. Mais c'était une volonté de certains et ça s'est fait sans pathos, sans rien. Et du coup, une forme d'amitié qui s'est liée et on est en contact avec eux assez régulièrement.
Vous parliez de médecins justement dans certaines de vos interventions. Il y a parfois des médecins qui viennent avec vous au sein de votre unité pour aller voir un peu ce qui se enfin, s'il y a des blessés à prendre en urgence.
Alors, c'est pas parfois, c'est systématique.
Okay.
On a monté un groupe de médecins avec, en collaboration avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc, on a un médecin 24 heures sur 24 avec nous.
Et ça, c'est l'après Bataclan ?
Ah, ça, c'est fait un petit peu avant, non ?
Un petit peu.
Et heureusement,
avant.
On les avait ce jour-là, d'ailleurs.
Ouais, pardon.
Comment on se remet de ça ?
Eh bien, on se remet, je pense que la meilleure thérapie, c'est de continuer. Et je pense que ce qui nous a sauvés pour beaucoup, c'est le rester au sein du groupe, en fait. Parce que ce groupe, lorsqu'on a vécu une expérience commune, c'est beaucoup plus facile d'en parler pour en faire un peu le catharsis. Alors que si on est isolé, c'est pas quelque chose qu'on peut pas vraiment échanger à ce propos-là. Là, je vous en parle sans donner trop de détails, mais le vécu, les odeurs, la vision qu'on a, ça, c'est quelque chose qu'on peut partager avec les gens qui l'ont vécu. Et la difficulté d'ailleurs qu'on a eue, et qu'on a eu du temps à surmonter, c'est que quand on a doublé un petit peu les effectifs quasiment après 2015, on s'est retrouvé avec des groupes, avec ceux qui y étaient et ceux qui n'étaient pas. Et ça, je pense que ça peut se retrouver également en sport de haut niveau, par exemple, ouais. avec ceux qui auraient pu gagner les JO et ceux qui n'ont pas, ouais. ceux qui arrivent derrière. Et ça, ça a été un petit peu compliqué à gérer, puisque certains estimaient, comme ils avaient fait ça, qu'ils étaient plus méritants. Les jeunes voulaient faire leur preuve, mais ils se disaient, oui, mais moi, j'étais pas là, mais c'est pas de mon fait. Et ça, ça a pris un petit peu de temps. C'était un vrai challenge en termes de leadership et de management.
Il y a une grosse culture du débriefing, justement, un peu, encore ce parallèle avec le sport.
Oui, alors chaque opération est débriefée, effectivement, donc analysée. Alors, on a pas les. Quelquefois, on a les vidéos.
Il n'y a pas l'analyste vidéo en chef.
Alors, on a eu, malheureusement, notamment sur l'hypercacheur, une vidéo en direct. Hein,
En janvier
2015. D'ailleurs, qui n'était même pas en léger différé, qui était en très léger différé, mais qui ont fait que les familles ont vu en direct ce qu'on faisait. Et aussi les terroristes. Donc on a cette culture du débriefing, de la remise en question permanente. Mais faut pas oublier qu'en face, ils le font aussi, quoi. Donc c'est quelque chose que nous, on prend en compte. Mais effectivement, le débriefing, c'est fondamental.
Ouais, c'est comme les sportifs de haut niveau, en fait, hein, parce qu'on sait que, par exemple, quand ils ont préparé les Jeux de 2008, les escrimeurs chinois avaient toutes les cassettes de tous les tireurs français. Ils savaient exactement comment ils attaquaient. C'est un peu la même chose.
C'est un peu la même chose.
Les cassettes, donc.
Les cassettes, oui. Oui, c'était
en 2008, peut-être des DVD. Hein.
DVD, peut-être, oui. Oh, excusez mon âge canonique.
Juste pour revenir sur les Jeux et les attentats, c'est en 2015 que la France, après les attentats, que la France a décidé de se porter candidate à l'organisation des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité, une cérémonie qui va être compliquée à sécuriser. Est-ce que c'est important que la France prouve qu'elle peut, malgré tout, malgré les risques, organiser un grand événement et offrir alors,
encore une fois, moi, c'est pas à moi de m'engager au nom ou de l'administration ou de la France, mais oui, je pense que la France, elle peut et elle va relever ce challenge. Et elle met tout en œuvre pour le faire, en tout cas à notre niveau, ce qui me concerne moi.
C'est un casse-tête quand même, à sécuriser cette cérémonie sur la scène.
Là, je mets le joker encore une fois.
Sachant qu'en plus, il y aura les militaires. On a parlé du RAID, on a parlé du GIGN, on a parlé de la BRI. Et il y aura une quatrième équipe, les Sentinelles et compagnie, qui seront là aussi pour sécuriser les lieux.
Mais je crois que tout le monde est mis à contribution. C'est ça aussi la force, notamment de la préfecture de police, de mettre en synergie toutes les forces qui la composent, quoi.
Ce qui est quand même une composition à mettre en musique assez délicate, quand même.
Oui, alors ça dépasse de loin mes compétences.
Et en plus, on rajoute à ça toutes les sécurités internes aux propres délégations. On pense aux Israéliens, on pense aux Américains. Ça fait du monde, quoi.
Géopolitique particulièrement tendue.
Tout à fait. Tout à fait.
On fait des entraînements spécifiques, justement, pour préparer ces Jeux ?
Bien sûr, alors je ne vais pas bien sûr vous dévoiler sur quoi on travaille, mais effectivement, pour le coup, il y a une vraie préparation spécifique en termes de planification et d'entraînement qui concerne les JO de Paris.
Si on reprend juste la cérémonie d'ouverture, il y a de l'eau qui est un enjeu majeur pour votre type de fonction, parce qu'il y aura beaucoup de monde proche de l'eau. Et donc, si ça part en... Il faut sécuriser les quais.
Il faut sécuriser partout.
Il faut sécuriser...
Oui, avec la notion de l'eau, c'est typiquement encore plus délicat que si c'était juste une artère ou un stade ou...
Est-ce que vous avez la visite parfois de sportifs de haut niveau ?
On a, alors à titre individuel, on a des gens qui viennent voir et on a reçu un petit peu plus, de manière un peu plus formelle, une équipe de l'INSEP là, encadrée par Ladjidou Kouré, de jeunes athlètes.
Avec Sacha Zoya, hein, qui a eu un grand espoir de médaille sur 110 mètres haies pour les Jeux Olympiques.
On les a reçus, c'était une 7-8, des jeunes, hein, et l'idée de Ladji, c'était de les mettre dans des situations qu'ils n'avaient pas l'habitude de rencontrer.
Genre, racontez-nous, parce que ça, moi je suis assez curieuse de ça.
Déjà leur mettre une arme dans la main, tout simplement, hein, et les faire tirer, ça paraît basique, mais...
Non, c'est pas basique. non.
Pour certains.
Pour vous, oui, mais ouais, pas pour nous.
Non, c'est ça. Et pour certains, ça a été une découverte.
Tant mieux d'ailleurs que ça soit pas.
Mais ouais. Complètement. Et on a fait aussi un bon, on leur explique un petit peu ce qu'on faisait. Ils ont rencontré des équipes, ils ont échangé, notamment sur ces thématiques qu'on a abordées nous-mêmes, hein, les analogies qu'il peut y avoir avec le sport et le travail que nous on fait.
Sur quoi ils étaient curieux?
Ah ben surtout. Et c'était assez agréable d'ailleurs. Ils étaient curieux de tout.
D'accord.
Et assez admiratifs. Alors nous on était admiratifs de leur performance et de leur degré de préparation à leur jeune âge là, et de leur implication. Et on les a mis aussi on leur a créé un petit parcours de stress.
Genre ?
C'est-à-dire ?
Ils ont un cheminement à faire, les yeux bandés, et à travers, donc eux ils ne voient pas, ils doivent suivre un fil d'Ariane en fait, et il leur arrive plein d'aventures, d'aventures à travers ce fil d'Ariane, et ils doivent aller au bout. Quoi. Et on a vu, les filles comme les garçons, une hargne et une détermination, parce que c'est aussi quelque chose qu'on fait pour les candidats.
Ouais.
Et
il y en a certains qui pourraient intégrer ?
Ah, en tout
ils
cas,
sont jeunes là pour l'instant.
Ils sont jeunes, mais s'ils le choisissaient et s'ils gardent cette niaque, cette détermination et ses capacités physiques, c'est sûr qu'ils disposent d'un potentiel plus qu'intéressant. Quoi.
Mais quand vous dites on leur a mis des petits
parcours
trucs...
de stress.
Parcours de stress,
c'est-à-dire que ils ont les yeux bandés, ils doivent cheminer, donc ils doivent résoudre leurs problèmes pour continuer de cheminer, passer dans des tout petits endroits.
On
n'est pas sûr, parce que comme on ne voit pas ce que c'est, alors quand on voit, ça perd un peu de son charme, c'est comme le cinéma, mais quand on le subit, on se dit, mais en fait, ils vont me mettre dans un truc où je ne vais jamais réussir à sortir. Il y a un moment donné, il y a l'intervention d'un chien aussi. Donc, du bruit, du stress, des gens qui les secouent. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile à prendre en compte. Eux, ils l'ont très bien fait, pour le coup. Je vous dis, les garçons comme les filles.
Et est-ce que vous avez eu des retours ensuite de l'ADJI qui vous a dit à quel point ça avait pu les aider ou...
Alors les aider, je ne sais pas, mais les retours en tout cas étaient très bons. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une autre collaboration avec l'INSEP qui va se mettre en place.
Ouais, parce qu'ils viennent chercher, il y en a beaucoup qui font déjà des trucs avec des stages avec le GIGN, avec le RAID. Pour vous, c'est un peu plus nouveau finalement avec les sportifs.
Ah, c'est un peu plus nouveau. Alors nous, on est une plus petite unité également. Hein.
Ouais.
Et on est très très employés. Mais effectivement, c'est des échanges qui sont toujours constructifs et qu'on apprécie beaucoup.
Vous êtes combien ?
On est en gros une centaine. Voilà.
D'accord. Et répartis sur tout le territoire ?
Alors non, nous, la BRI de la préfecture de police, elle est compétente sur Paris et la Petite Couronne.
D'accord. Qu'est-ce qui reste à faire là, d'ici les Jeux Olympiques là ? C'est beaucoup d'entraînement physique. C'est tous les jours, de
toute
façon.
Oui, alors c'est ce que je vous disais, c'est du spécifique sur les missions qui vont nous attendre pour cet été. Mais ça se fait assez naturellement hein, et ça se rajoute à tout ce qu'on fait aussi d'ordinaire. Quoi. Donc le programme est changé.
Il y a le quotidien
qui ne change pas, lui. Donc les voyous, il y en a toujours. Des forcenés, il y en a toujours. Des enlèvements, parce qu'on a traité les enlèvements, il y en a aussi. Donc nous, on est là pour assurer le quotidien et la mission spécifique des Jeux Olympiques de Paris.
Et comment on fait, parce que vous êtes comme des sportifs de haut niveau, des fois vous vous blessez ?
Oui, alors on a cette problématique-là, surtout qu'on a quand même des effectifs qui peuvent être assez âgés, puisqu'on a une moyenne d'âge qui doit être autour de 42-43 ans. Et ça, c'est à prendre en compte. On a la chance, grâce à nos médecins, des pompiers de Paris et leur connaissance médicale, ils nous orientent toujours vers des spécialistes, notamment des médecins du sport qui nous prennent en charge. Mais effectivement, la gestion de la blessure, c'est quelque chose d'important. Ouais.
Ah, il y a une vraie. Enfin, quand vous dites on va voir les médecins du sport et tout, il y a un vrai parallèle, quoi.
En fait, c'est des blessures qui ressemblent à celles ou des blessures un petit peu comme les fractures de fatigue, enfin, tout ce que un sportif de haut niveau peut rencontrer, quoi. C'est assez proche, ça.
Il y a des contrôles antidopage ?
Non, mais alors la question est pertinente parce que quand on reçoit les candidats, la première chose qu'on fait c'est fouiller dans leur sac pour voir si justement pour la semaine un petit peu difficile ils n'ont pas pris des produits pour les aider.
Vous, contrairement aux sportifs de haut niveau, j'imagine qu'après les interventions, il n'y a pas la table de massage qui vous attend, etc. Si ?
Non, malheureusement. Ou alors il faut l'organiser entre nous. Non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Mais même si le suivi s'est vraiment amélioré ces 10 dernières années, là-dessus, c'est important.
Même et le débriefing aussi psychologique. Enfin, je veux dire pour chacun.
Alors ça, on essaie d'intégrer les.
Il y a des préparateurs mentaux.
Il n'y a pas vraiment de préparateurs mentaux. Il y a des gens qui font des tops là, des techniques d'optimisation du potentiel. Quelque chose qui rentre un petit peu en compte, qui commence à être pris en compte, même si c'était pas encore très culturel chez nous, mais c'est des choses qu'on essaie d'intégrer, effectivement.
Merci beaucoup, Jérémy, pour votre confiance. Je rappelle le nom de votre livre, Les Anges Gardiens du 36, c'est aux éditions Mareuil. C'est vraiment un très, très beau livre illustré. Merci encore.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Vous allez regarder quoi au jeu ? Quelles épreuves ?
Je crois que là, on aura, vu comment on va être engagé, on n'aura pas trop l'occasion de regarder les épreuves.
On vous racontera alors.
Merci.
Vous allez voir, ça va être pas mal.
Avant de nous quitter, un point sur le foot d'abord, Quentin.
L'Olympique de Marseille mène 1-0 sur la pelouse de Toulouse. On joue depuis 42 minutes. C'est un but de Onana à la 38e sur une magnifique tête lobée. Onana, premier but depuis qu'il est arrivé à Marseille en janvier dernier pour le Camerounais. À l'instant, Aubameyang a bien failli doubler la mise sur une magnifique frappe qui est passée légèrement au-dessus du but de Guillaume. Il reste 1-0 pour l'OM, 43e minute de jeu.
Benoît Lallemand, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages sport du Parisien ?
Du foot et du PSG, évidemment, puisque ce soir, il y a un savoureux PSG-Lyon. Du vélo avec un focus sur Romain Bardet. Et puis, une interview très émouvante de la maman de Kiptoum, le marathonien décédé tragiquement d'un accident de la route qu'on a été rencontré au Kenya.
Merci beaucoup, Benoît Lallemand. Le Parisien que les abonnés numériques peuvent lire dès 22h30 sur leur tablette. Merci Benoît, merci Quentin, merci à Oriane et Kevin pour la réalisation. Dans un instant, place au football, Eric Silvestro.
On va avoir une soirée de dingue, Isabelle. PSG Lyon, on en a parlé. On va revenir sur ce Brest-Monaco houleux et Monaco qui prend la deuxième place à Brest. Il y a la suite de Toulouse-Marseille, il y a le Classico Real-Barcelone. Bref, une soirée de dingue dans RTL Foot jusqu'à 23h.
Allez, à tout de suite. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 19h15. Nous parlerons notamment d'Ayrton Senna, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les 30 ans de sa disparition. Bonne soirée, dans un instant, les informations.
Hé, trop de boulot, tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte ?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Dans un instant.